Nous sommes un peu moins nombreux ce dimanche. Vous avez vu que les jeunes et les jeunes adultes ne sont pas là. Nous avons la convention jeunesse qui a lieu en ce moment même, ce week-end même, avec un culte important également et un culte au cours duquel l'Évangile sera annoncé avec un appel. Et nous pouvons aussi demander au Seigneur qu'il bénisse tous nos jeunes qui se trouvent là-bas à la convention jeunesse dans la région du Mans. En ce qui nous concerne, nous nous apprêtons donc à ouvrir la parole de Dieu ce dimanche de Pentecôte. Et j'ai choisi finalement de ne pas prendre un texte spécifique, classique de la Pentecôte, mais de poursuivre l'étude de l'Épître aux Philippiens telle que nous l'avons abordée, mais en essayant, et j'espère que ce ne sera pas artificiel, de donner l'éclairage de la Pentecôte au texte que nous lisons. Je vous invite donc à lire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, du verset 20 jusqu'au chapitre 4, verset 9. Philippiens 3, à partir du verset 20. Pour nous, dit Paul, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Jusqu'ici, notre lecture. Nous rappelons en ce dimanche l'événement de la Pentecôte, un moment clé dans la réalisation du projet de Dieu. Jésus a achevé son œuvre sur la terre, il a pleinement révélé le visage de Dieu. Il a rendu possible, par sa mort et sa résurrection, notre réconciliation avec le Père. Sur la base de cette œuvre accomplie, il envoie du ciel son Esprit. Cet Esprit est répandu comme une force vivifiante pour le peuple de Dieu, en vue de tout ce qu'il lui faut désormais être et réaliser. Pentecôte se situe 50 jours après Pâques, c'est la signification du mot Pentecôte, le 50e jour. Pâques dit tout ce qui nous est acquis en Jésus. Il est mort, il est ressuscité pour nous. Pentecôte nous rappelle ce qui s'ouvre à partir de là. Pâques nous dit qu'en Jésus, nous avons le pardon de nos péchés, que nous recevons sa justice et le statut d'enfant de Dieu. Pentecôte nous parle de ce qui doit grandir, de ce qui doit se développer en nous. L'Esprit a bien des fruits à produire dans notre vie, fruits de foi, de sainteté, d'amour, de fidélité à Dieu, de croissance spirituelle. Et ceci dans notre vie à chacun, comme dans la vie de l'Église, rassemblée par l'Esprit, envoyée en mission dans le monde. Un large champ s'ouvre donc à Pentecôte, et l'Esprit de Dieu est là, partout où il y a quelque chose à accomplir. Il est la présence personnelle, il est le soutien, la ressource qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons, dans tout ce qu'il nous faut être et réaliser. Oui, la Pentecôte, c'est cette ouverture-là. Depuis plusieurs mois, nous lisons ensemble l'épître de Paul aux Philippiens. Et Paul s'adresse là à des chrétiens qu'il invite aussi à vivre pleinement dans ce monde, une foi ferme et dynamique, fondée sur l'œuvre de Jésus, engagée vers l'avant, comme une course vers le but. Et c'est précisément cette situation de Pentecôte ouverte. Elle est fondée sur l'œuvre de Jésus, elle est tendue vers l'œuvre de Dieu qui doit continuer et qui le peut grâce à l'Esprit donné à l'Église. C'est pourquoi ce texte m'a paru utile et dans la ligne de l'Esprit de la Pentecôte. J'aimerais voir plusieurs facettes de ce que peut signifier pour nous vivre la Pentecôte aujourd'hui au travers de notre texte. Première facette, elle concerne l'horizon de la vie d'un chrétien. Paul a encouragé les chrétiens de Philippe à courir de l'avant. Et de même, la Pentecôte lance l'Église dans tout ce qu'elle peut réaliser désormais, équipée par l'Esprit. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que l'horizon ne se réduit pas à ce qu'il faut réaliser sur la terre. Paul intègre aussi ses frères et sœurs à pleinement intégrer ce que signifie l'ascension de Jésus, ce que signifie sa gloire présente et son prochain retour. Et Paul situe cela comme une dimension incontournable de la vie chrétienne en disant « Pour nous, notre cité est dans les cieux et c'est de là que nous attendons comme sauveur et sauveur Jésus-Christ le Seigneur. » À la Pentecôte, il y va de même. Le don de l'Esprit désigne à l'Église une nouvelle mission vers toutes les nations. Mais ce don parle aussi de Jésus, car c'est lui qui, ayant reçu l'Esprit du Père, l'envoie aux siens. Et cet envoi de l'Esprit manifeste que Jésus est Seigneur et que du ciel où il a été reçu à son ascension, il agit pour les siens. C'est ce qui permet aussi d'attendre que viennent des temps de rafraîchissement, comme le dira l'apôtre Pierre dans l'une de ses toutes premières prédications, lorsque le Père nous enverra celui qui nous a été destiné pour le rétablissement de toutes choses. C'est la prédication dont qui nous est rapportée en acte 3. La Pentecôte, donc, ne dessine pas simplement une ligne vers l'avant, une mission de l'Église, mais elle dessine plutôt un triangle. L'Église se lance, oui, vers l'accomplissement de ce qui est sa mission, mais Jésus, du ciel, domine tout cela. Et c'est lui qui viendra apporter la réalisation de toutes choses au bout de la mission de l'Église. C'est ce que dit Paul aux Philippiens, c'est la même structure. Nous courons vers le but, comme nous l'avons vu dimanche dernier, mais non pas à la façon de ceux qui ne vivraient que sur un horizon terrestre. Car, dit-il, nous courons vers le but, oui, mais notre cité est dans les cieux. Et c'est de là que nous attendons, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors cette manière de dire « notre cité est dans les cieux » était un langage très parlant pour les chrétiens de la ville de Philippe, parce que Philippe était une colonie romaine en Macédoine. Tous les citoyens de la ville de Philippe étaient d'office des citoyens romains. Ils avaient les mêmes droits que s'ils étaient nés à Rome, que s'ils étaient des Romains de souche. Ce n'était pas le cas des autres villes autour de Philippe. Mais en tant que colonie romaine, Philippe était en sorte presque une représentation de Rome en terre étrangère. Et ce lien avec Rome lui donnait des privilèges, une identité unique. Et Paul dit aux chrétiens de Philippe, qui savaient ce que voulait dire être une colonie romaine, il leur disait, mais votre vraie cité, à vous chrétiens, celle dont vous tirez vraiment aujourd'hui votre vraie identité, vos privilèges les plus grands, celle qui vous apporte votre vrai ancrage, votre cité, elle est là-haut, auprès de Jésus, dans les cieux. C'est cet ancrage-là qui change tout pour vous. La ville de Philippe, sans son lien à Rome, n'était qu'une ville comme les autres. Mais de même, votre ancrage auprès du Christ dans les cieux change toute la donne. Notre cité est dans les cieux. Cela ne veut pas dire notre cité à venir est là-haut. Mais ça veut dire notre ancrage dès aujourd'hui est dans les cieux. Notre vraie citoyenneté, celle qui détermine notre présent et notre avenir, elle est là avec le Christ. Impossible de penser à ce que nous sommes sans nous relier à Jésus qui est au ciel, dans la gloire et qui reviendra. Impossible de penser à ce que nous sommes sans nous voir citoyens de la cité qui déjà se construit auprès du Christ et qui se manifestera dans toute sa beauté quand il reviendra. Cette cité-là, qui se manifestera pleinement lors de son retour, nous en sommes déjà citoyens. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le tirons de cette appartenance. Et il nous faut voir dans ce triangle dont Jésus est le sommet et le garant. Nous faisons bien des choix d'ailleurs dans notre vie quotidienne qui montrent que nous dépassons simplement les horizons de la vie terrestre de tous les jours. Pourquoi sommes-nous ici ce dimanche matin en train de nous approcher de Dieu dans ce que nous faisons qui a plein de sens pour nous plutôt que de prendre l'air quelque part? Pourquoi renonçons-nous parfois à certaines facilités d'une vie simplement terrestre pour un service chrétien? C'est parce que vraiment, notre identité, nous croyons qu'elle est là en Jésus et que c'est cela qui est l'essentiel et c'est cela qui détermine également tout ce que nous sommes, tout notre avenir. Notre cité, notre pleine appartenance est dans les cieux en Jésus. Alors est-ce une fuite que de penser comme cela? Non, car nous avons aussi pour mission de vivre l'Évangile et de l'annoncer parmi les hommes. Nous avons la vie nouvelle que nous donne l'Esprit à manifester dès aujourd'hui sur la terre. Nous avons à vivre solidairement avec ceux qui nous entourent. Nous appartenons à la réalité terrestre pleinement, c'est notre réalité. Et d'ailleurs, nous dit l'apôtre Paul, notre corps nous le rappelle. Ce corps par lequel nous agissons dans le monde, grâce auquel nous sommes solidaires, actifs au sein de la réalité humaine et terrestre. Mais notre corps est aussi, comme pour tous les hommes, un corps, nous dit Paul, humilié à cause de la réalité du péché. Notre corps est soumis à la vanité, à la fragilité. Il connaît les fatigues, les limitations. Il est à la merci de la maladie. Il est destiné à mourir un jour. On est bien sur la ligne du terrestre. Mais nous dit l'apôtre Paul, au-dessus de cette ligne, il y a le Seigneur Jésus. Avec lui, son corps glorieux. Et dit Paul, le Seigneur transformera un jour notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et ici aussi, on retrouve ce même triangle que j'évoquais avec toute sa force. Nous avons notre corps terrestre, oui, nous vivons, réalité solidaire des réalités humaines, mais le Seigneur Jésus est déjà au ciel, avec notre humanité glorifiée. Il a son corps glorieux et il veut vraiment permettre qu'un jour nous puissions véritablement, comme lui, recevoir toutes les ressources de ce dont il est déjà le gage en étant au ciel maintenant dans la gloire. On comprend à cette lumière le refrain de l'apôtre Paul dans cette épître qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Considérez toute chose à la lumière de ce que le Seigneur est déjà, de ce qu'il fait déjà, de ce qu'il vous donne déjà. Réjouissez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous. Réjouissez-vous de tout ce qu'il vous a acquis. Réjouissez-vous dans la communion avec lui, jour après jour. Réjouissez-vous de sa présence en vous, par son esprit. Réjouissez-vous en pensant à ce qu'il fait aujourd'hui pour vous dans les cieux. Réjouissez-vous de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Réjouissez-vous dans l'espérance qu'il le fera. Nous n'avons donc pas simplement une course à courir ou une mission à remplir. nous avons aussi et déjà une citoyenneté pleine et riche de sens en Jésus, qui est avec son corps glorieux dans les cieux. Notre cité à nous, notre citoyenneté à nous, elle est dans les cieux auprès de Jésus. Mais toute notre vie, si elle est bien éclairée par ces réalités, ne se résume pas à de telles réalités. Et Paul, après avoir, à la lumière de ce qu'il a dit de Jésus, encouragé ses frères et sœurs à tenir ferme dans le Seigneur, s'adresse maintenant à quelques-uns plus particulièrement. À partir du verset 2, le point commun est qu'ils travaillent ou qu'ils ont travaillé au service de l'œuvre de Dieu. Et Paul mentionne deux femmes, Évodie, Saint-Tiche, qui, dit-il, ont combattu côte à côte avec moi au service de l'Évangile. Il mentionne aussi un frère dont on ne sait pas le nom, mais qu'il appelle fidèle collègue, probablement l'un des responsables ou le responsable de l'église de Philippe. Il parle aussi d'un certain Clément et d'autres compagnons d'œuvre. Tout cela évoque une belle réalité, l'action commune au service de l'Évangile. On est là aussi dans le souffle de la Pentecôte. Les chrétiens unis par l'Esprit qui, ensemble, sont au service de l'Évangile, s'engagent pour le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais que découvrons-nous ici à Philippe? Parmi ces personnes tellement et pleinement engagées, qui ont été bien unies dans le travail, il y a des tiraillements, il y a des divergences. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. On ne sait pas de quelle nature est le différent entre ces deux femmes qui étaient tellement engagées dans l'œuvre de Dieu. Est-ce un désaccord doctrinal? Est-ce qu'elles ne s'entendent pas sur une question de méthode? Chacune a son idée sur ce qu'il faut bien faire pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce un problème personnel de relation? Mais voilà une situation, des gens qui aiment le Seigneur, qui ont à cœur son œuvre, se retrouvent en désaccord, en tension, et c'est une vraie entrave. Et cette situation décrite ici n'est malheureusement pas unique. Cela arrive malheureusement si vite. Avec toutes nos bonnes dispositions pour servir Dieu, nous avons aussi notre caractère, nous avons aussi nos réactions, nos volontés, que les choses se fassent à notre façon. Notre intransigeance parfois sur des points qui ne sont pas essentiels. Et cela crée des difficultés, des obstacles, même lorsque l'on veut travailler à l'œuvre de Dieu. Comment Paul aborde-t-il une telle situation ? Il a déjà encouragé à l'unité, au point où nous sommes parvenus, avait-il dit, marchons ensemble. Et il avait montré que lui-même savait accepter que l'on puisse avoir des pensées différentes sur certains points. Si sur quelques points vous avez une pensée différente, le Seigneur vous éclairera. Mais face à ce problème de discorde, il ne laisse pas les choses telles qu'elles sont. Et en quelque sorte, il dit à ses frères, à ses sœurs, il faut surmonter cette difficulté. Et il met bien des choses en œuvre pour atteindre ce but. Il commence par un appel à la responsabilité. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. C'est intéressant de voir combien Paul s'adresse à chacune. Il répète le verbe. Il ne dit pas « j'exhorte Évodie et Saint-Tiche ». Non, non, il dit « j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche ». C'est une manière de dire à chacune « vous avez chacune votre part à faire pour sortir de l'impasse ». Chacune, bien sûr, comme c'est souvent le cas dans ces situations, a tendance à penser que le problème, c'est l'autre et que c'est donc à l'autre de faire le premier pas. Paul leur dit à chacune « c'est à toi ». De prendre ta responsabilité. C'est à toi de faire bouger la situation là où tu le peux. C'est à toi de faire un pas. Que de situations se débloqueraient si chacun acceptait de dire « je suis prêt à faire un pas, un vrai pas » plutôt que de toujours tout attendre de l'autre. donc d'abord appel à la responsabilité. Paul invite ensuite à une médiation. Il y a là une tierce personne, son collègue, à qui il donne une mission. Je te demande à toi, cher collègue, de les aider. Ce qui veut dire que parfois, on n'arrive pas toujours tout seul dans le vis-à-vis frontal à résoudre les difficultés. Et une tierce personne peut permettre à chacun de mieux s'exprimer, de mieux dire ce qu'il ressent, de mieux réfléchir aussi de manière un petit peu distanciée à ce que l'autre peut vivre ou éprouver, d'être questionné sur soi-même. Et on voit ici Paul qui demande à son collègue de les aider. Pas de les gronder, pas de les juger, mais de les aider. Ce qu'ils vivent, c'est qu'on puisse vraiment sortir, si possible, par le haut de cette situation. Et il demande que l'on garde cette orientation positive jusque vraiment dans la démarche. Je te demande de les aider. Mais troisièmement, en disant cela, Paul veille aussi à garder la mémoire des choses positives. Elles ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, dit-il. Et Paul se refuse à ne considérer Évodie et Saint-Tiche que comme des personnes à problème. Il ne veut pas que le problème actuel remplisse tout. Il se rappelle ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont été. Et ça lui donne la ligne. Ce sont des personnes de valeur. Elles aiment le Seigneur. Il faut qu'elles se sortent de ce différend. Il faut qu'elles puissent à nouveau donner leur pleine mesure. Et en l'écrivant dans cette lettre destinée à toute l'Église, Paul affirme cela devant tous et devant les deux intéressés aussi. Elles savent qu'elles gardent l'estime de Paul. Mais si l'une le sait, elle sait que l'autre le sait aussi. Et cela peut devenir une aide et un appel pour prendre maintenant leurs propres responsabilités. Quand on lit le début du livre des Actes, on découvre une réalité magnifique. Les chrétiens, unis par l'Esprit, n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et c'est la magnifique action du Saint-Esprit que de nous unir les uns aux autres. Et il faut dire que si l'Église continue, c'est que cela se fait depuis des siècles. C'est l'un des miracles de l'Esprit qui se vit dans l'Église, que d'unir des gens qui autrement ne seraient jamais unis, d'unir dans une même orientation, un même cœur, des gens très différents. Mais en même temps, cette union que l'Esprit apporte doit nous amener à affronter courageusement les difficultés là où elles se présentent, quand elles se présentent. Il ne s'agira surtout pas de s'écrouler parce que tout ne baigne pas toujours et partout dans l'harmonie la plus totale. L'harmonie, il faut aussi la construire, la vouloir, y travailler, réparer ce qui doit l'être au fur et à mesure des situations qui surgissent. Et cela demande encore et toujours de travailler par l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. On a besoin de cela pour continuer à unir le peuple de Dieu et dépasser les inévitables tensions qui peuvent surgir, car nous sommes tous très différents, chacun avec ce que nous sommes, avec nos personnalités. Veillons donc, dans la suite des choses, à être comme ici, avoir ce même esprit de vouloir maintenir ce qui doit l'être, réparer ce qui doit l'être, mais garder le cap comme le fait l'apôtre Paul. Et Paul, en ayant abordé cette question un peu difficile, invite à garder par-dessus tout, comme l'ancrage de nos cœurs, ce que nous avons dans le Seigneur. Et c'est pourquoi, juste après, il dit, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est assez rare, les invitations qui sont faites avec une telle insistance. Il y a peu de commandements où l'on dit, je le répète, faites ceci, faites ce que je vous ai dit. Mais Paul donne aussi l'exemple, car se réjouir dans le Seigneur, c'est clairement ce qu'il fait lui, y compris dans une situation qui n'est pas forcément facile. Il est prisonnier, il est limité, coupé de toute initiative. Et pourtant, on le voit heureux, satisfait en Jésus-Christ, trouvant sa joie dans tout ce qu'est Jésus pour lui. Dans cette situation, Paul se nourrit de tout ce que lui apporte le Seigneur, se réjouit de ce que Jésus est pour lui. Il y a là un noyau dur qu'il cultive et qui irradie avec beaucoup de force une vraie sérénité dans sa vie. Se réjouir dans le Seigneur, malgré les difficultés, malgré ce qu'il faut affronter parfois, garder vraiment au cœur tout ce que nous avons en Jésus et en faire le noyau qui irradie tout le reste. Et cette joie en Jésus qui se lie à une vraie proximité du Seigneur, qui est aussi dans la certitude que le Seigneur est proche, à la fois qu'il viendra bientôt et qu'il est là, proche de nous dans nos situations. Cette proximité de Jésus, cette joie en Jésus, peut aussi nous amener à avoir une attitude différente, puisque être ainsi uni à Jésus peut permettre aussi au sentiment qui était en Jésus de se manifester dans notre vie. Et c'est pourquoi Paul continue en disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur, car le Seigneur est proche, et que votre douceur soit aussi connue de tous les hommes. » Cette attitude accueillante pour l'autre que Jésus a manifestée, cette manière d'être non agressive, qui n'écrase pas, cet accueil des autres est possible lorsqu'on sait où l'on a son ancrage. Le fruit que produit l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Jésus avait dit, l'esprit prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est aussi ce qui est manifesté ici. Réjouissez-vous dans le Seigneur et manifestez les attitudes qui sont celles du Seigneur. Mais la vie, c'est aussi parfois qu'il nous faut affronter, ce sont aussi parfois des difficultés, des inquiétudes de tous ordres. Avant de partir et en annonçant la venue de l'Esprit, Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. » Et c'est le thème de la dernière partie de l'exhortation que nous avons lue. Paul rappelle que, oui, les circonstances de la vie peuvent susciter en nous beaucoup d'inquiétudes. Et l'inquiétude peut souvent obscurcir notre vie, lui ôter sa sérénité, lui enlever son élan. Tant de choses peuvent devenir source d'inquiétude, voire d'angoisse. Petits soucis et grosses incertitudes, légers nuages et ciels bien noirs peuvent parfois nous saisir, nous envahir. Il faut composer jour après jour avec ces réalités. On ne les maîtrise pas toutes. Il arrive que ce soit un vrai combat pour garder la sérénité. Comment avancer au milieu de tout cela? La première ligne qui ressort de notre passage est que notre ressource principale dans ces circonstances est de rester relié au Seigneur. En toute chose, dit Paul, faites connaître à Dieu vos besoins. En toute chose, approchez-vous de Dieu, dit l'apôtre Paul. Vivez en quelque sorte toutes vos situations, même les plus angoissantes, avec Dieu bien présent. Sachez lui parler, sachez peut-être crier à lui puisqu'il est question là de supplication. Souvenez-vous aussi de tous les sujets de reconnaissance que vous avez, que ce soit dans le passé ou dans la situation présente qui est aussi source de difficultés. Et vous verrez, dit l'apôtre Paul, combien il y a là des ressources insoupçonnées. Vous pourrez recevoir, vous pourrez expérimenter, dit-il, la paix de Dieu, une paix que le Seigneur lui-même va déposer au fond de nous. Et nous savons que c'est là aussi l'œuvre de l'Esprit, puisque le fruit de l'Esprit est aussi justement cet amour, cette joie, cette paix qui nous sont données. Paul précise que cette paix que nous pouvons recevoir lorsque nous cherchons à vivre toutes nos situations dans l'union au Christ et dans la proximité de sa communion, que cette paix est une paix qui surpasse toute intelligence. Il ne veut pas dire par là que c'est une paix qui est déraisonnable, mais il indique par là qu'elle va au-delà de ce que l'on peut attendre lorsque l'on est seul avec soi-même. Nous ne penserions jamais qu'il soit possible d'être en paix face à telle ou telle situation. Normalement, je ne devrais pas être en paix. Mais je constate, lorsque j'apporte ma situation à Dieu, lorsque je me réjouis en lui de ce qu'il est pour moi, lorsque je lui dis mes angoisses parfois avec force, je constate qu'au bout de tout cela, oui, j'ai une paix qui m'étonne moi-même. Et c'est le constat que cette paix ne vient pas de nous, mais qu'elle se reçoit dans la relation. Dans nos circonstances qui peuvent être inquiétantes, dans nos situations d'angoisse, nous pouvons venir au Seigneur. Mais, continue Paul, ce n'est pas la paix qui sera l'élément le plus important pour nous aider à faire face à ce que nous vivons. Paul ne dit pas « Faites connaître à Dieu vos besoins et vous aurez la paix ». Il dit « Faites connaître à Dieu votre besoin et la paix que Dieu vous donnera gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ ». Autrement dit, ce qui compte, c'est ce lien vital qui apporte la présence du Seigneur, qui apporte la force, qui apporte l'espérance et le recours. Et il s'agit là d'un lien vivant, d'un lien avec le Seigneur lui-même, fort de tout ce qu'il est pour nous, fort de tout ce qu'il fait pour nous, fort de tout ce qu'il tient en réserve pour nous et présent en nos cœurs par son Esprit. Comment continuer la route quand les soucis barrent l'horizon? Comment rester fixé vers le but que Dieu nous fixe? C'est en restant attaché à Jésus dans une relation vivante. Et c'est le rôle particulier de l'Esprit que de prendre ce qui est à Jésus et de nous l'annoncer, de nous en convaincre intimement, intérieurement, très profondément, en disant « Oui, c'est pour toi, c'est bien pour toi, réjouis-toi de cela. » Comment vivre cette réalité? L'un des mots clés de notre texte est « toujours ». Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul dit également « en toutes choses, faites appel au Seigneur ». Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de vivre une relation où ce sont les SOS détresse qui montent vers le Seigneur. Mais c'est toujours qu'il faut cultiver ce lien. Entretenons une relation positive, tranquille, rafraîchissante avec Dieu dans le fil de nos jours. Régalons-nous avec lui des bonnes choses qu'il nous donne. Réjouissons-nous tranquillement des promesses qui nous soutiennent. Disons merci à Dieu pour le soutien qu'il nous donne, même dans les petites choses. Relevons au moment des moments exigeants les signes de sa présence, les encouragements qu'il nous donne, qui nous montrent que nous ne sommes pas seuls. Réjouissez-vous toujours. En toute situation, approchez-vous de Dieu. Et c'est cette constance qui permettra aussi de faire face lors des situations plus exigeantes. Mais Paul, en envisageant la présence de Dieu, cette présence paisible, cette présence constructive dans notre vie, est vraiment un bon médecin. Et il ne s'occupe pas simplement de médecine d'urgence qui consiste à dire que faire quand les choses vont mal. Il parle aussi de prévention. Et c'est la fin de notre passage. Que tout ce qui est vrai, dit-il, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Autrement dit, nos habitudes de pensée comptent énormément. Cultivez toujours, en toute chose, un esprit catastrophiste sur la moindre broutille de la vie, nous conduira à être complètement submergés par nos propres difficultés. Celui qui n'aura l'habitude de voir que le côté négatif des choses n'aura pas par miracle un autre regard lorsqu'il s'agira de sa propre vie, de ses propres difficultés. Il nous faut, dit l'apôtre Paul, cultiver une nouvelle hygiène de pensée, valoriser les choses qui sont belles, positives, constructives quand elles sont là, et elles le sont. valoriser aussi dans notre vie une des pensées qui vont vers ce qui est bon, vers ce qui correspond à ce que Dieu aime, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable aux yeux de Dieu soit l'objet de vos pensées. Et il faut nous rappeler aussi ici que de temps en temps, le fait de cultiver certaines pensées vers des choses qui sont mauvaises vont nous rendre beaucoup plus vulnérables au mal. Pour grandir selon l'esprit de sainteté, il est important aussi de cultiver les regards sur ce qui est pur, sur ce qui est bon, orienter nos regards vers ce qui correspond à ce que Dieu aime. Ce n'est pas de la méthode Coué qui consiste à dire « il suffit de penser positif pour que tout aille positif dans la vie ». Le premier mot que Paul emploie est de dire que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Mais c'est une erreur de penser que la réalité ou le réalisme ne sont que négatifs. Il nous faut, pour être vrai, valoriser aussi ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est aimable aux yeux de Dieu. Et c'est un fruit de l'esprit aussi. L'esprit doit illuminer les yeux de notre cœur, que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, pour que nous voyions les choses dans la lumière de Dieu. Prévention donc dans nos regards. Et puis prévention aussi en cultivant le sens de l'action. Ce que vous avez appris, dit l'apôtre Paul, mettez-le en pratique. C'est important aussi cela. C'est dans la vie avec Dieu que l'on découvre les ressources de Dieu pour nous. C'est dans l'obéissance concrète qu'on découvre la fidélité de Dieu, la présence de Dieu, le soutien de Dieu. C'est lorsque l'on s'engage vraiment avec lui, lorsqu'il faut compter sur lui, que l'on découvre que Dieu a des ressources. Et cela ancre tellement profondément la certitude que nous avons dans notre Dieu. Comment donc vivre de l'événement de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui? La vie que nous avons amenée a ses réalités, ses obstacles, ses difficultés par moments. Nous les affrontons. Comment vivre aujourd'hui de l'événement de la Pentecôte? En valorisant vraiment ce que nous avons en Jésus. Il est là dans la gloire et c'est du ciel qu'il conduit toutes choses par sa puissance et c'est du ciel qu'il nous soutient aussi et il saura faire aboutir le projet de Dieu. Valorisons donc ce que nous avons en Jésus. Affrontons aussi là où il le faut les difficultés relationnelles peut-être que nous pouvons trouver pour aller plus loin dans un esprit constructif et vivons toute situation dans une relation vivante avec le Seigneur, en laissant l'Esprit illuminer notre regard, notre approche des personnes et des situations. Que l'Esprit fasse donc son œuvre en nous, cette œuvre en nous, qu'il nous donne donc la force, la persévérance et la joie pour entrer jour après jour dans le projet de Dieu, projet dans lequel il nous accompagne pas à pas, situation après situation, car il est là, en nous, lui, le Seigneur. Amen.